Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal de Radio Okapi dont voici les titres. Les violences sexuelles contre les enfants ne s'arrêtent pas en République démocratique du Congo. Par contre, à certains moments, elles ont même tendance à tripler. C'est l'UNICEF qui le dit dans son rapport sur cette question. L'organisation parle de 35 000 enfants violentés cette année et l'année dernière, c'était déjà même 45 000. Après plus d'un mois d'obscurité noire, les habitants de Mbujimayi renouent à nouveau avec l'électricité de la SNEL. Le transformateur tombé en panne a rapidement été remplacé par un autre flambant neuf. Pourquoi Kananga est-elle aujourd'hui menacée par autant de constructions anarchiques et des têtes d'érosion? Un expert nous en parle dans un instant, notamment pour nous préconiser des solutions à mettre en pratique. Bonsoir à tous et bienvenue à ce dernier journal de Radio Okapi. La violence sexuelle contre les enfants est un problème endémique et systémique qui ne cesse de s'aggraver en République démocratique du Congo, selon le nouveau rapport de l'UNICEF publié aujourd'hui. Si le conflit continue de jouer un rôle majeur dans cette situation, ce rapport démontre qu'aucune province n'est épargnée et que le nombre de cas a nettement augmenté depuis 2022. Le rapport parle de 35 000 cas cette année, mais l'année dernière, c'était déjà 45 000 cas. Un condensé de ce rapport nous est présenté ici par Alain Irung.
Ces chiffres mettent en évidence un préjudice généralisé et ancré durablement, avec un bilan réel certainement bien plus lourd du fait des défauts de signalement, bon nombre des victimes étant dans l'impossibilité de se faire connaître ou de demander de l'aide en raison de la peur, de la stigmatisation, de l'insécurité et de l'accès limité aux services requis. Les travailleurs sociaux racontent qu'il faut parfois plusieurs heures aux mères pour accompagner à pied leurs filles jusqu'à un centre de santé, alors que ces dernières ont subi une agression et ne sont plus en mesure de marcher. Au dire des familles, la peur de la stigmatisation et des représailles les empêche souvent de signaler les actes de violence, a déclaré Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF. Et les témoignages sont les mêmes d'une province à l'autre, signe qu'il s'agit d'une crise profonde alimentée par l'insécurité, les inégalités et le manque de robustesse des systèmes de soutien. Les différents schémas qui se dessinent selon les provinces révèlent la nature de cette crise. La plupart des cas sont concentrés dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, où le conflit, les déplacements et la fragilité des systèmes de protection engendrent un risque extrême.
En Ituri, justement, la situation est restée confuse à Boulé, dans le territoire de Djougou. Aujourd'hui matin, des miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire CRP en sigle ont été aperçus dans le centre de négoce situé à 95 km de Bounia après leur retrait d'hier. Par ailleurs, plusieurs sources concordantes affirment avoir entendu des détonations d'armes lourdes toute la nuit dernière jusqu'à ce matin dans cette localité. Martial Kiza.
C'est dans la mi-journée d'hier que les éléments de la 11e brigade de réaction rapide de FARDC ont consolidé leur position dans les centres de Boulé et ses environs après le retrait de la cité des miliciens de la CRP. Selon les porte-parole de l'armée à l'Ituri, l'objectif est de remettre de l'ordre dans cette entité sous menace de ces miliciens qui, selon lui, utilisent des enfants EVR à majorité de déplacés comme boucliers humains, le lieutenant Gilles Ngongo.
Et donc ça, nous avons condamné tout d'abord l'utilisation des enfants déplacés, les femmes déplacées dans le rang de la CRP, de Thomas Lubanga. Les images ont été claires et nous avons dit, pour mettre notre population à l'abri, nous avons utilisé la stratégie militaire.
La nuit dernière, ces miliciens de la CRP ont de nouveau attaqué des positions des forces loyalistes dans ces centres de négoce où ils se sont de nouveau installés. Témoignage de cet habitant déboulé.
Je suis au centre précisément vers l'hôtel Grand Lac. La force CRP est venue encore la nuit afin de repousser la FRGC du stade.
À ce stade, aucun bilan des combats d'hier n'est disponible. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans la province du Sud Kivu, les FRDC affirment avoir pris le contrôle de deux nouveaux villages dans le territoire d'Uvira. Cela intervient après la reprise totale des villages des Makobola 1 et 2. Selon le porte-parole de l'opération Sokola 2 Sud-Sud Kivu, les villages récupérés sont Luanga et Kigongo. Le sous-lieutenant Rigen Kalonji affirme aussi qu'au cours de cette même opération, cinq éléments du M23 avec leurs armes se sont rendus au FRDC. Par ailleurs, du côté de la ville d'Uvira, les forces vives locales évoquent le déploiement des renforts des soldats rwandais depuis hier. Ces sources affirment que ces troupes seraient passées par Kamanyola avant d'être déployées à Uvira. Dans la province de La Tchopo, l'association des professeurs de l'université de Kisangani Apuki Sensible exige la libération immédiate et sans condition du professeur Jean-Claude Pandatimu. Celui-ci a été condamné le 6 octobre 2023 par la cour d'appel de La Tchopo à 12 ans de servitude pénale principale dans une affaire l'opposant à son ex-épouse. Le professeur Pandatimu s'était pourvu en cassation le même jour sollicitant l'annulation du jugement de première instance. L'affaire a été instruite, plaidée et prise en délibéré le 22 janvier 2024. Depuis cette date, la Cour de cassation ne s'est toujours pas prononcée. Face à ce silence judiciaire, l'APUKIS se tourne désormais vers la Cour constitutionnelle afin qu'elle dise le droit. Une pétition en ce sens a été présentée hier à la presse par le président de l'association à l'issue d'une assemblée générale. Les propos du professeur Jean-Pierre Lifoli ont été recueillis par Jacques Mkonkole.
Sans motif valable pour la Cour de cassation de rendre son arrêt dans cette affaire, a porté délibérément atteinte aux droits fondamentaux du professeur Jean-Claude Pandatimu, à bénéficier d'une justice juste, équitable et impartiale. Bien plus, certains acteurs politiques et membres des gouvernements national et provincial ont donné des injonctions au juge président de la Chambre, cadre d'un parti politique de son État et candidat malheureux à l'élection législative nationale de 20 décembre 2023. Selon les rapports médicaux émanant de l'administration pénitentiaire, l'état de santé physique et psychique du professeur Jean-Claude Pandatimu devient de plus en plus alarmant. Eu égard à tout ce qui précède, l'APUKIS exige ce qui suit. 1. La libération immédiate et sans condition du professeur Jean-Claude Pandatimu, détenu depuis 818 jours. 2. La prise en charge médicale urgente du professeur Jean-Claude Pandatimu par le gouvernement de la République.
Et puis cette bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, le barreau provincial vient d'y ouvrir un bureau dénommé Maison de l'avocat, opérationnel depuis le 26 décembre 2025. Objectif, rapprocher la justice des citoyens les plus vulnérables en organisant notamment des consultations judiciaires gratuites en faveur des personnes indigentes, incapables de couvrir les honoraires d'avocat et les frais de justice. Pour bénéficier de cette assistance, les demandeurs doivent présenter une attestation d'indigence délivrée par le bourgmestre de la commune de la résidence ou par l'administrateur du territoire. Les explications du bâtonnier du Nord Kivu, Maître César Paloukou, au micro de Martial Papi Moukeba.
Il s'agit d'abord d'assurer la présence du barreau du Nord Kivu à côté de la cour d'appel délocalisée à Beni. Et ensuite, pour assurer le service d'aide légale à travers le bureau de consultation gratuite en faveur des indigents. Ce sont donc là les deux grandes raisons qui ont milité pour l'ouverture de la maison de l'avocat à Beni, en plus de celles qui existent à Goma, qui continuent de fonctionner normalement. Et c'est le bâtonnier qui met à la disposition du bureau de consultation gratuite des avocats qu'il désigne pour accompagner les indigents en les conseillant ou en les assistant devant les cours et tribunaux. Il est requis aux demandeurs de prouver leur indigence en produisant une attestation d'indigence délivrée par le bourgmestre du lieu de résidence ou bien par l'administrateur de territoire.
Autre bonne nouvelle dans ce journal, les habitants de Mbujimayi au Kassai Oriental poussent un grand soupir de soulagement. Après plusieurs semaines de coupures, l'électricité est enfin rétablie dans de nombreux foyers abonnés à la Société Nationale d'Électricité SNEL. Le transformateur tombé en panne le 13 novembre dernier a été remplacé la semaine passée, permettant une reprise durable de la fourniture en énergie. Ce nouvel équipement contribue également à améliorer la desserte en eau potable dans la ville de Mbujimayi. Des explications d'Esther Ndalafina.
Les festivités de fin d'année s'annoncent désormais dans la joie. Les quartiers plongés dans les noirs ou soumis à un programme strictement de délestage retrouvent la lumière. Les enfants heureux refusent de quitter la télévision profitant de ce retour de courant tant attendu.
Regarde les Barbie, les dessins animés, les choses des enfants, plus aussi les calculs mathématiques.
L'ambiance est palpable sur la terrasse Kingakati à l'entrée du camp scellé. La population célèbre son propriétaire, Gédéon Kapiamba, a tenu à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans la résolution de ce ban.
Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. On a rétabli le courant, vraiment. On n'avait pas l'eau, on n'avait pas du courant, vraiment. On n'avait pas de frais.
Le directeur régional de la régie des eaux, Didier Mboudilelo, confirme que la remise au service du transformateur améliore également la distribution en eau potable. Une double victoire pour les habitants qui voient leur quotidien facilité.
On va remplir les réseaux, on va rétablir l'horaire pour servir chaque jour, donc l'histoire des jours c'est fini.
Avec l'énergie revenue, certains habitants préparent déjà des décorations lumineuses pour embellir leur maison et célébrer les fêtes de fin d'année. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Kananga, au Kassai central par contre, de nombreuses habitations sont érigées en violation de normes urbanistiques en vigueur. Selon des spécialistes de l'environnement, cette situation favorise l'apparition de plusieurs têtes d'érosion qui menacent différents quartiers de la ville. Ces constructions anarchiques sont souvent implantées dans des zones inappropriées et ne disposent pas de système adéquat d'évacuation d'eau de pluie. La société civile locale accuse le service d'urbanisme de ne pas assumer pleinement sa mission d'organisation du territoire. André Katende.
À Kananga, plusieurs maisons sont construites sans respect des normes urbanistiques. La société civile locale pointe du doigt les services de l'urbanisme censés assurer la planification de la ville. André Moujani, coordonnateur provincial du mouvement citoyen Filimbi au Kassai central, dénonce une situation qu'il juge préoccupante.
Aujourd'hui, si vous parcourez les quatre coins de la ville, vous verrez que plusieurs sites qui étaient verts, il y a des maisons qui ont poussé. En tout cas, l'urbanisme doit faire son travail.
Pour sa part, Crispin Mukinaï, chef de la division provinciale de l'urbanisme, affirme que certains services techniques, notamment le cadastre et le CUPEC, ainsi que des autorités locales, délivrent des autorisations de bâtir sans consulter sa division.
Ils donnent des autorisations sans avoir l'aval de l'urbanisme. Or, tout doit commencer par l'urbanisme. L'urbanisme doit étudier. Après, il décante la situation, d'autres services vont faire. Mais actuellement, ce n'est pas ça.
Crispin Mukinaï ajoute que sa division avait envisagé d'étendre la ville en attribuant des terres dans les villages environnants. Cependant, les populations refusent de s'y installer, préférant demeurer au centre-ville. Kananga, André Katindengala Mouloumé, Radio Okapi.
L'industrialisation, la création massive d'emplois et la diversification de l'économie nationale étaient au centre de la réunion du comité de pilotage des zones économiques spéciales ZES en sigle, présidé hier mardi à Kinshasa par la première ministre Judith Suminwa, tenue au bâtiment administratif de la ZES de Maluku, dans l'est de la capitale de la RDC. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2024-2028. Plusieurs membres du gouvernement y ont pris part, notamment les vice-premiers ministres de l'Intérieur et de l'Économie, les ministres d'État du Plan de la Formation Professionnelle de l'Urbanisme et Habitat, ainsi que le ministre ad intérim de l'Industrie. Plus de détails avec vous, Ronéline Timbonera.
Cette réunion présidée par la chef de gouvernement en sa qualité de président des 10 comités s'est distinguée par son caractère opérationnel et inédit en s'étendant directement sur les sites même de la zone économique spéciale de Maluku, considérée comme une zone économique spéciale pilote de la politique nationale d'industrialisation voulue par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Selon le ministre d'intérim de l'Industrie, Justin Kalumba, chaque membre du gouvernement a été placé face à ses responsabilités, non pas de manière théorique, mais sur la base d'une matrice claire d'action, d'échéance et d'indicateurs de performance afin d'assurer un suivi rigoureux des engagements pris. Ce déplacement de la première ministre pour une évaluation physique de la zone économique spéciale pilote de Maluku intervient dans un contexte d'accélération de ses projets stratégiques. Les premières installations significatives ont démarré en 2020, ouvrant une nouvelle phase opérationnelle. Le gouvernement souminois s'attache désormais à donner une impulsion décisive et à accélérer les rythmes des réalisations conformément aux engagements du programme d'action gouvernementale et de la vision du président de la République pour transformer pleinement ses potentiels en résultats industriels concrets.
Un siècle d'existence, mais des conditions de prise en charge toujours précaires. L'hôpital général de référence de Lubero, dans le territoire du même nom dans la province du Nord Kivu, a totalisé hier 100 ans d'existence. Construit à l'époque coloniale, cet établissement public de santé fait aujourd'hui face à de nombreux défis. Bâtiments vétustes, absence d'ambulances, faible capacité d'accueil. Pourtant, cet hôpital joue un rôle crucial dans la prise en charge de plus de 300 000 habitants, ainsi que de milliers de personnes déplacées. Ces difficultés compliquent l'accès aux soins de santé primaire pour la population locale. Face à cette situation, le médecin directeur de l'hôpital, le docteur Mouissa Kasereka, lance un appel au gouvernement pour la reconstruction et la modernisation de cette structure sanitaire. Il est au téléphone de Martial Papi Moukeba.
L'hôpital vient de réaliser 100 ans. Quand vous essayez de voir l'image de l'hôpital, c'est généralement les efforts de la communauté locale. C'est pourquoi les grands défis, c'est d'abord construire un hôpital qui reflète l'image de 100 ans d'existence. Nous avons des bâtiments vétustes. Ça ne donne pas une bonne qualité de prise en charge de nos malades. Les grands défis, c'est vraiment la construction et l'équipement de cet hôpital général de référence de Lubero. La mobilité, nous n'avons pas d'ambulance. Cela fait que nous avons des difficultés de mouvoir les malades, de les évacuer, ou soit de les ramener des centres de santé vers l'hôpital général de référence. Il y a même des malades qui dorment à même le sol. C'est pourquoi nous demandons aux gens de bonne volonté, et surtout à notre gouvernement, de songer aussi à l'hôpital général de référence de Lubero. Actuellement, nous avons une capacité de 110 lits. La population est de 372 411 habitants, et cela demanderait à principe un effectif de 372 lits.
Actualité internationale.
Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a jugé aujourd'hui scandaleuse la menace d'Israël de suspendre les activités des dizaines d'organisations humanitaires à Gaza à partir de janvier, appelant les États à exiger d'urgence d'Israël un changement de cap.
L'invité.
Vous l'avez entendu dans ce journal que Kananga au Kasaï central est en proie à des constructions anarchiques qui provoquent de nombreuses têtes d'érosion. Nous recevons alors Crispin Moukinaï, chef de la division provinciale de l'urbanisme, pour en parler. Il est au micro de André Katende.
Monsieur Crispin Moukinaï, bonjour.
Bonjour, papa. Allez.
Dites-nous un peu, selon vous, qu'est-ce qui fait que la construction anarchique puisse devenir aujourd'hui un fléau à Kananga?
Ça devient un fléau puisque les gens construisent sans pouvoir tenir les normes urbanistiques. Nous avons un service de KIPEC qui est dans l'urbanisme, mais qui ne tient pas compte de l'urbanisme, qui ne vient même pas auprès de l'urbanisme. Quand il reçoit l'argent, il autorise. On construit n'importe où. Vous trouverez des maisons auprès des érosions, mais qui vous a donné l'autorisation, c'est l'équipe. Voilà, c'est une difficulté. Nous avons décrié, nous avons demandé.
Est-ce que ce n'est pas l'urbanisme qui autorise la construction?
Non, c'est l'équipe qui autorise la construction, pas l'urbanisme.
Si on peut bien comprendre, ces autorisations sont données sans l'aval de l'urbanisme.
Effectivement, il ne passe même pas à l'urbanisme. Avant d'autoriser, il faut connaître le milieu, c'est où, ou bien il appartient à qui. Pour eux, ils visent l'argent. Or, des lieux qui ne peuvent pas être construits. Même les chefs quartiers, les chefs d'avenir commencent à donner aussi des terrains sans pouvoir passer par l'urbanisme. Il y a des concessions. Vous avez votre concession aujourd'hui. Et demain, vous mettez cette concession en parcelle. Vous devenez distributeur. Sans que l'urbanisme le sache. Le service de cadastre se fait responsable des terres puisqu'il devient le distributeur des terres sans avoir l'aval de l'urbanisme. Or, tout doit commencer par l'urbanisme. L'urbanisme doit étudier. Après, il décante la situation. D'autres services vont faire comme cadastre, affaires foncières. Mais actuellement, ce n'est pas ça. Vous êtes au bureau, vous vous attendrez que le cadastre donne des terrains peut-être à l'engrance, sans que nous le sachions. Comment est-ce que l'urbanisme peut faire? Maintenant, pour suspendre ces travaux, par après, oh, ils ont déjà des documents. C'est ça la difficulté que nous avons.
Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette hémorragie des constructions anarchiques à Kananga?
Effectivement, pour arrêter cette situation, tout agent ou toute personne qui a besoin d'avoir un terrain ou de construire doit passer par l'urbanisme. L'urbanisme doit être sur terrain pour étudier encore si c'est convenable ou pas. On autorise aussi d'une manière désagréable puisque on ne tient pas compte des eaux de pluie qui viennent. Il n'y a pas de canalisation. On ne peut pas construire comme ça. Cela dépend de l'urbanisme qu'on doit commencer à travailler.
Alors, dites-nous, la ville est surpeuplée par rapport aux temps anciens. Alors, quelle solution l'urbanisme trouve pour éviter les constructions anarchiques? Parce que plus les gens sont nombreux, plus ils construisent partout.
Nous avons des terrains à Benamande, à Matamba, à Toubouloukou. Il y a des terrains que les gens peuvent construire et se mettre là-bas. Quand vous leur dites de venir ici, vous êtes venus ici, nous vous donnons un terrain, puisque là où il est, il y a une érosion. Il dit, oh, allez où? À Matamba ou à Benaman? C'est en brousse. Tous les gens là veulent venir vers toujours la ville. La ville doit être surpeuplée. Il y a des camps qu'on peut mettre des gens. Il y a des terrains, il y a des espaces à développer notre ville ici. Il faudrait qu'on songe à ça, développer la ville. Mais les gens qui y mettent, qui sont là-bas, là où ils sont, ils ne veulent pas encore quitter. Mais il y a des érosions là où ils sont. Là où ils sont aussi, près des érosions, les eaux là n'ont pas de place à aller.
Alors qu'est-ce qui empêche le service d'urbanisme de déguerpir ces gens-là qui sont à des endroits non appropriés?
Nous avons déjà fait des propositions. Des propositions sont faites déjà auprès de l'autorité. S'il pourra accepter, on va les déguerpir pour leur donner d'abord des places au-delà. C'est ça la situation. Une solution plus simple, c'est ça.
Monsieur Crispin Mukinaï, nous rappelons que vous êtes chef des divisions de l'urbanisme au Kasaï Central et nous vous disons merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie, papa.
Fin de ce dernier journal de 2025 sur Radio Okapi. Quel plaisir était le nôtre de vous servir cette année supplémentaire comme celle que nous avons jusqu'ici vécue ensemble. Vivement que Dieu nous en donne beaucoup d'autres encore pour vous servir. Merci à Alain Irung, Richard Junior Kamunga, Élisée Chikota et Dieudonné Nyangasa pour leur soutien éditorial. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne année 2026.